Alors, je ne vais pas rentrer dans autant de détails que mes collègues d'autres collectivités, plus vous expliquer comment on a abordé la démarche à Paris. Déjà, on s'est posé la question, grosso modo, de comment on allait faire pour déplacer les gens, un peu comme tout le monde, à partir du 11 mai, donc dans une ville qui est particulièrement dense et dans le cœur de la métropole dense. Sachant que l'avantage, c'est qu'on avait déjà eu la grève des transports en commun pour observer ce qui se passait quand on avait une chute de l'utilisation des transports en commun. Et donc, sans surprise, on avait un report sur les autres modes de transport, y compris le vélo. Voilà. Et donc là, l'objectif, c'est donc de créer des pistes cyclables qui permettent à tout le monde de se déplacer. Donc en respectant les distanciations sociales, je reviens pas dessus, on a déjà beaucoup parlé, et surtout pour qu'elles paraissent réalistes à des gens qui aujourd'hui font pas du vélo, pour éviter qu'elles se reportent sur la voiture. Donc pour donner un peu une illustration en termes de volume de ce que ça représente à Paris, les déplacements de personnes, là j'ai fait l'exercice en prenant 5% du trafic de l'heure de pointe de la ligne 13, donc 5% c'est pas beaucoup. Alors, je précise que les chiffres que j'ai pris, c'est des chiffres qui sont sortis de Google, c'est pas les chiffres de la RATP. Mais en l'occurrence, pour faire passer 5% du trafic normal de la ligne 13 à l'heure de pointe du matin, il me faudrait 4 files de circulation motorisées supplémentaires si les gens prennent leur voiture. Donc, que bien évidemment, on n'est pas en capacité de créer. Donc, on voit qu'on a un enjeu assez fort pour réussir à déplacer les gens ou à récupérer une partie du trafic des transports en commun, à essayer de le reporter. Enfin, si tout le monde se reporte sur la voiture, on va juste pas réussir à se déplacer à Paris. Donc, sur le vélo, encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a déjà pu observer ce qui s'est passé pendant la grève et aussi ce qui s'est passé sur nos infrastructures qu'on a livrées durant l'année 2019. Donc là, je vous ai donné deux chiffres. Donc le premier, c'est celui du boulevard de Sébastopol. Donc ça, c'est des chiffres qui viennent du 3 mars 2020. Donc on n'était plus en période de grève des transports en commun. Et donc je précise que les chiffres ne comptent que les vélos, mais pas les trottinettes. Et donc à l'heure de pointe sur notre piste cyclable qui a double sens, on avait un peu plus de 1100 vélos qui ont été comptés, donc auxquels il y a une part de trottinettes qu'il faudrait ajouter. Sachant qu'on a créé cette piste en supprimant une file de circulation motorisée qui aurait pu débiter. Donc à Paris, on considère qu'on a à peu près 800 véhiculaires sur un axe. Donc à 1,1 personne par voiture, qui est notre taux moyen à Paris, ça faisait à peu près 880 personnes. Donc déjà actuellement, au mois de mars, qui n'est pas le mois le plus favorable pour les déplacements à vélo, on avait réussi sur cet axe à déplacer plus de personnes dans la piste cyclable à double sens qu'on avait créée que dans la file qu'elle occupait précédemment. Sachant que, j'indique que la file, à 800 véhiculaires, la file de circulation motorisée, elle est à saturation. La piste Sébastopol, elle n'est pas encore à saturation. Donc, il y a quelques usagers à Paris qui pourraient me dire que c'était quand même pas le top et que c'est mieux quand il n'y a personne sur la piste cyclable, mais je pense qu'on avait encore de la réserve de capacité sur cette piste. Donc, on a prouvé déjà en mars 2020, hors de période de grève, que on était capable d'attirer des cyclistes et qu'on était capable de déplacer plus de monde que dans une file de circulation motorisée. Et ensuite, sur la partie droite, donc là, vous avez sur le boulevard Voltaire. Donc là, le boulevard Voltaire, c'est pendant la grève. Donc pareil, c'est une piste cyclable qui a été livrée à l'été 2019. Donc ça, j'ai pris un extrait, c'est Le Monde qui a fait l'analyse à partir de nos données de trafic automobile et de trafic vélo. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la piste qui fait, donc on a 2 mètres de large dans chaque sens pour les vélos et environ 3 mètres de large dans chaque sens pour les voitures. Donc sur la piste qui fait qui est moins large que celle des voitures, on a eu un débit à l'heure de pointe, donc au moment où les gens avaient l'envie et le besoin de se déplacer, qui était jusqu'à 2 fois supérieur. Voilà, donc ça c'était pendant la grève des transports. J'avoue que j'ai pas regardé ce que ça donnait en mars 2020. Et il y a certains jours durant la grève des transports où même au global sur la journée, il y a plus de vélos qui sont passés que de voitures sur cet axe, donc en prenant 2 mètres au lieu de 3. Voilà. Donc, on voit qu'on est plus en capacité de faire passer des gens sur des pistes cyclables que sur des infrastructures routières. Après, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils choisissent le vélo et pas la voiture. Donc là, je vous donne deux illustrations. Donc, c'est Ce qui est dit, c'est sur le même axe, donc c'est l'axe nord-sud parisien qui correspond à l'infrastructure plus ou moins de transport en commun du RER B et la ligne 4. Donc, puisqu'on dispose d'un compteur à la fois sur la piste du boulevard de Sébastopol, qui a été livrée du coup en 2019, et aussi dans la partie plus au sud, sur un couloir de bus et une piste cyclable sur trottoir, donc vous voyez la photo, qui est sur le boulevard d'Enfer Rochereau. Voilà, donc deux mêmes axes, un axe avec un gros besoin de déplacement, donc vu qu'il y a quand même deux infrastructures ferroviaires lourdes qui sont le long de cet axe. Et donc, ce qu'on a observé en termes de comptage, donc là, pareil, j'ai pris le 3 mars 2020, donc c'est pas pendant la grève. Et en termes de comparaison, on a plus de 5 fois plus de vélos sur Sébastopol que ce qu'on en a sur le boulevard d'Enfer Rochereau. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement, le boulevard de Sébastopol profite aussi d'un maillage global de pistes dans l'ensemble de la zone. La piste est beaucoup plus maillée, donc elle attire forcément plus de vélos. Mais on voit quand même que, je précise quand même un élément qui est très important, c'est qu'à Paris, les couloirs de bus sont aussi autorisés aux taxis et aux livraisons. Et donc, de fait, ils sont très circulés. Donc, on est même dans un couloir de bus, on est quand même soumis à des niveaux de trafic quand on se déplace à vélo dedans qui sont assez élevés. C'est pas comme un couloir de bus qui serait circulé que par des bus. Voilà, donc on voit qu'on a un peu du mal à attirer des cyclistes quand on propose des infrastructures de ce type-là. Donc, dans nos réflexions pour le provisoire, on s'est quand même orienté au maximum sur des axes, sur offrir une infrastructure qui soit protégée pour le vélo et hyper sécurisant pour justement inciter ceux qui sont pas encore à vélo à choisir le vélo et pas la voiture. Voilà. Donc, comment on a fait pour choisir sur les 1700 km de voies parisiennes où est-ce qu'on allait faire des pistes provisoires, étant entendu qu'on ne peut pas tout aménager. Alors, on n'a pas de modèle de déplacement vélo comme on pourrait en avoir pour la circulation motorisée ou la circulation pour les transports en commun. Après, même si on avait un modèle, il serait pas forcément valable dans les conditions du déconfinement. Donc en fait, on a appris de manière un peu simple, par similarité avec l'offre de transport en commun, qu'on a besoin de désaturer, en regardant quelles étaient les lignes les plus empruntées ou les lignes les plus saturées. Donc les lignes les plus empruntées sur Paris, donc là c'est la moyenne sur l'ensemble de la ligne, c'est la ligne 1 et la ligne 4, qui par ailleurs, pour chacune des deux, sont aussi doublées par un RER, donc la ligne 1 est doublée par le RER A dans Paris et la ligne 4 plus ou moins par le RER B. Et ensuite, là, ce que vous voyez à droite, c'est la saturation à l'heure de pointe du matin en considérant 4 personnes par mètre carré. Et donc, apparaît assez fortement, pour ceux qui connaissent Paris, en Y au nord de Paris, qui est la partie, le tronçon nord de la ligne 13, qui est en Y dans la partie nord et qui a un taux de saturation assez élevé. Voilà, donc on sait que c'est des axes sur lesquels il y a un besoin de déplacement puisque les gens utilisent les transports pour se déplacer sur ces axes-là, et donc on a choisi donc ces axes-là en priorité pour étudier nos projets de pistes provisoires. Voilà, sachant que après on va pas forcément, enfin ça donne la direction, on va pas forcément pouvoir suivre à la rue près le tracé de la ligne de métro ou du RER. Mais donc, on a grosso modo 4 axes qui se dessinent, un axe est-ouest, un axe nord-sud et un axe qui permet de, enfin, qui suit plus ou moins la ligne 13. Voilà. Donc, je vais pas présenter les projets. Je vais très vite expliquer les principes qu'on a pris en compte dans la réflexion parce que je peux pas vous présenter les projets parce qu'ils sont pas aboutis et qu'il y a beaucoup de concertations à faire avec nos partenaires qui n'ont pas encore été terminés. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est premièrement de favoriser les unidirectionnelles, puisque les bidis nous obligent à revoir toute la SLT, et on est quand même sur des axes qui font parfois 4,5 km ou 5 km avec un très grand nombre de carrefours, surtout quand on s'approche du centre de Paris. On a essayé au maximum de conserver les bandes de stationnement qui accueillent un grand nombre de fonctionnalités de la ville qui sont assez indispensables et qu'on a du mal à relocaliser, notamment les livraisons, les places handicapées, les transports de fonds. Et les livraisons, voilà, même si les restaurants et les bars sont fermés, Il y a quand même évidemment beaucoup de livraisons, surtout dans le cœur dense de Paris. Et c'est pour ça que dans les propositions que vous ne pouvez pas voir pour l'instant, on n'a jamais proposé de fermer des rues, puisqu'on ne peut pas fermer une rue sans assurer la livraison des commerces qui sont indispensables. Voilà. Et sinon, oui, je rejoins un peu ce que disait Simon sur Grenoble. J'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre des pistes qui soit facile. Malheureusement, les Champs-Élysées qui sont simples, on les avait déjà fait. Et donc, en fait, après, quand on parle quand même de grands linéaires de pistes à étudier, tout est un petit peu compliqué. Voilà. Je rejoins Simon là-dessus.
Merci beaucoup, Charlotte. Merci notamment d'avoir rappelé les différences de capacité entre le vélo et la voiture, avec des capacités très, très, très grandes pour le cycliste par rapport à la voiture pour une même largeur d'empreinte. Et puis, cette méthode hein, qui suit les axes forts du métro, hein, en lien avec aussi, hein, ce qu'on peut se dire, la carte mentale aussi des usagers qui, a priori, c'est encore une hypothèse, il faut qu'elle soit vérifiée, mais qui, a priori, viendrait des TC qui pourraient éventuellement se repérer aussi avec ces lignes de TC.